Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur l'intelligence artificielle et les relations internationales, alors que la Commission européenne vient de présenter son livre blanc consacré à l'intelligence artificielle et plus largement sa stratégie en matière de données. La Commission, qui a perdu la bataille des données personnelles, souhaite se mobiliser sur celle des données industrielles. Dans les jours qui ont précédé la publication de ce livre blanc, Bruxelles a vu défiler la plupart des dirigeants des géants américains de l'Internet, soucieux de faire valoir leurs arguments dans la crainte qu'une réglementation européenne trop stricte ne conduise à freiner leur croissance et à briguer l'innovation. Ceci alors que l'Europe connaît les premiers déploiements de la 5G et continue de se chercher une ligne, tentant de préserver son indépendance et ses intérêts à l'ouest comme à l'est de ses frontières, entre Washington d'un côté, Pékin de l'autre, chacun poussant ses pions pour défendre ses intérêts économiques et industriels. Le gouvernement américain allant jusqu'à menacer de cesser de partager des renseignements avec les pays optant pour un équipementier 5G non digne de confiance, visant la Chine sans la nommer. Intelligence artificielle et relations internationales avec nos invités. Jean-Gabriel Ganassia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université et président du comité d'éthique du CNRS, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Intelligence artificielle vers une domination programmée, point d'interrogation, aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Dubois de Prisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'une étude intitulée « Le système de crédit social, comment la Chine évalue, récompense et punit sa population ». Bonjour.
Bonjour.
Et Julien Nocetti, chercheur associé à l'IFRI, chercheur et professeur de relations internationales à Saint-Cyr-Couette-Quidan et auteur de « Intelligence artificielle et politique internationale, les impacts d'une rupture technologique » aux études de l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
L'intelligence artificielle, ce sont les milliards de données travaillées par des algorithmes pendant des mois. Je parle évidemment sous votre contrôle. C'est l'un des enjeux majeurs des prochaines années qui va profondément transformer la façon de produire, de consommer, de s'informer, de se divertir, de se déplacer ou de se soigner. Pour le meilleur ou pour le pire, est-ce qu'il faut craindre l'intelligence artificielle? La question se pose. Elle fait l'objet d'un ouvrage de vous-même, Jean-Gabriel Ganassia, et d'un chapitre du livre intitulé « L'intelligence artificielle constitue un danger existentiel majeur et inéluctable pour l'humanité ». La vice-présidente de la Commission européenne en charge du digital, Margrethe Vestager, en présentant le livre blanc mercredi, estimait que l'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise. En soi, tout dépend du pourquoi et comment elle est utilisée. Commentaire, Jean-Gabriel Ganassia.
Alors, double commentaire. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle, c'est d'abord une discipline scientifique qui n'est pas récente. En tout cas, elle a 65 ans. Alors, au regard des mathématiques, c'est relativement récent, mais ça fait quand même un certain nombre d'années. Cette discipline scientifique a eu un effet considérable sur le monde. Et ces dernières années, du fait de la numérisation des échanges entre les hommes, entre autres du fait du web, de la toile, à ce moment-là, elle prend un rôle extrêmement important. Et elle va prendre un rôle encore plus important dans les années à venir, car nous avons une dissémination des capteurs, ce qu'on appelle l'Internet des objets, le fait que vous allez avoir des dispositifs qui vont prendre des données et que l'intelligence artificielle va contribuer à interpréter ces données. Et c'est justement ce qui justifie aujourd'hui le livre blanc de la communauté européenne. Alors, est-ce qu'elle est ni bonne ni mauvaise? Je dirais non. Elle est à la fois bonne et à la fois mauvaise. Elle est bonne parce que elle permet, dans des domaines comme la santé, dans des domaines comme l'énergie, dans des domaines comme la sécurité, de faire à la fois des progrès scientifiques considérables et d'aider les hommes et les femmes dans le monde. Le web est lié au développement de l'intelligence artificielle. Il a été construit à partir d'un modèle de mémoire. Ça a transformé la société de façon positive. Mais elle peut être mauvaise parce qu'elle peut avoir effectivement des effets sur nos vies privées. Et puis, ensuite, c'est bien sûr ce qui va nous réunir aujourd'hui, cette intelligence artificielle, dans la mesure où c'est un enjeu économique majeur pour le futur. Derrière l'intelligence artificielle, il y a des enjeux stratégiques extrêmement importants pour le présent et pour le futur.
On le développera bien sûr. Julien Nocetti.
Alors, je partage ce constat. Je pense qu'il y a un vrai effort de mise à distance à faire par rapport justement à ces perceptions liées à l'IA. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression depuis, on va dire 3-4 ans, qu'il y a une prédominance des discours à la fois déclinistes, avec, pour schématiser, la fin du travail, voire extrêmement anxiogène, notamment sur le plan conflictuel, avec la saturation de champs de bataille par des robots tueurs qui remplaceraient l'humain et feraient peser une menace extrêmement forte. Donc ça, c'est quelque chose qui est très prégnant dans le discours international, qui est relayé aussi par des acteurs les États-Unis, la Chine, la Russie peut-être aussi parfois, qui ont aussi un intérêt à entrer dans ce type de rapport de puissance pour la maîtrise, en fait, de ces technologies et ces applications. Parce que là aussi, il y a un effort de clarification peut-être à apporter. On a aussi peut-être tendance à chosifier l'intelligence artificielle. Or, ça consiste en un spectre assez large d'applications qui sont très concrètes. Ça passe de la reconnaissance faciale, dont on parlera peut-être tout à l'heure, au traitement automatisé du langage, à la voiture autonome, etc. Donc c'est un champ extrêmement vaste qui met en œuvre des disciplines, comme M. Galastia le rappelait, extrêmement diverses.
Alors la reconnaissance faciale, effectivement, on en parlera. Un commentaire rapide, Emmanuel Dubois-Prisque.
Moi, ce qui me frappe, disons, c'est que chez nous, effectivement, on a tendance à voir souvent des aspects extrêmement négatifs de l'intelligence artificielle, ou en tout cas à mettre en avant parfois des discours qui peuvent paraître déclinistes ou anxiogènes. En Chine, il me semble que la vision de l'intelligence artificielle est beaucoup plus positive, moins critique, on pourrait dire aussi, avec l'idée que l'intelligence artificielle pourrait permettre des sauts technologiques à l'industrie chinoise, à la puissance chinoise dans son ensemble. Et on constate plutôt un discours très très technophile et positif en Chine à l'égard de l'intelligence artificielle. C'est pas forcément rassurant parce que il manque peut-être en Chine de ce discours critique qui, même s'il peut avoir des aspects parfois contre-productifs parce qu'il va bloquer certaines avancées chez nous, permet quand même aussi d'envisager les aspects négatifs d'un progrès technique.
Alors le manque de discours critique, c'est peut-être aussi que ce discours critique a du mal à s'exprimer. On y reviendra peut-être. Alors, le livre blanc donc, de la Commission européenne, on voit Bruxelles souhaiter créer un marché unique du numérique avec pour priorité la création d'un puissant cloud européen. La Commission annonce un financement de 2 milliards d'euros. Les Européens sont-ils à même de s'imposer dans le domaine de l'intelligence artificielle, Jean-Gabriel Ganassia?
Alors, il faut d'abord rappeler le contexte. Le web est né en 1989, mais le développement du web, c'est le milieu des années 90. Les premiers navigateurs, c'est 93. Le boom de la net économie commence à la fin des années 90. Et à ce moment-là, les opérateurs européens sont dans une situation un peu paradoxale. Ils ont l'habitude de facturer et de nouveaux acteurs vont intervenir et ils vont essayer de s'imposer en vendant du gratuit. Ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire et d'extrêmement compliqué. Pour vendre du gratuit, ils se sont dit on va faire de la publicité. Mais cette publicité n'est pas rentable. Pour qu'elle soit rentable, on va la cibler. Et pour la cibler, on va utiliser des techniques d'intelligence artificielle qui vont permettre de profiler les individus en fonction des miettes de données qu'ils laissent sur les réseaux sociaux. Toute l'économie d'Internet, depuis 20 ans, repose sur ce principe. Alors ce qui s'est produit, c'est qu'effectivement, les Européens, pour différentes raisons, entre autres parce que les opérateurs européens n'étaient pas du tout habitués à ce type de fonctionnement, ont totalement perdu toutes les batailles qui se sont succédées depuis 20 ans. Et donc aujourd'hui, ce que se dit la communauté européenne, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui est liée aux objets connectés et aux capteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et ils se disent, on va essayer de remporter cette bataille. Alors, est-ce que ça va marcher? C'est extrêmement difficile, bien sûr, de le dire tout de suite. Moi, simplement, je voudrais rappeler une autre histoire. Il y a 20 ans, l'agenda de Lisbonne, au moment de ce qu'on appelait les autoroutes de l'information, donc vous voyez, c'était vraiment au début du web, et à ce moment-là, les chefs de gouvernement européens se sont réunis et ont dit, nous allons être la première puissance dans ce monde qui vient, dans cette société de la connaissance. Alors pour ça, bien sûr, il fallait développer l'enseignement et développer la recherche. Qu'est-ce qu'on voit 20 ans plus tard? C'est que l'Europe a perdu un nombre considérable de batailles dans ce champ-là. Et donc, on peut craindre que ces déclarations, tout à fait justifiées, un constat tout à fait intelligent, mais que ça ne conduise pas l'Europe sur la voie du succès qu'elle se promet aujourd'hui.
Parce que finalement, l'Europe a beau être la puissance industrielle la plus développée au monde, Julien Nocetti, ce n'est pas pour autant qu'on peut imaginer qu'en termes de données industrielles, elle va dominer là aussi. Il n'y a pas de rapport de cause à effet.
Et justement, cette question des données est fondamentale parce qu'en fait, mercredi, il y a eu cette annonce justement d'un livre blanc pour l'IA, mais également une stratégie qui a été annoncée pour les données, avec une approche très industrielle du sujet. Et troisièmement, un discours de la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, sur sa vision du futur numérique de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, il y a eu non seulement le dévoilement justement de cette approche sur l'IA, mais tout ça a été empilé dans une espèce de grand package pour résumer, sur cet avenir numérique de l'Union européenne. Alors après, au-delà de cette vision industrielle qui, évidemment, comporte un certain nombre de faiblesses, hein, parce qu'on ne peut pas non plus rattraper un retard qui a été pris depuis
20 ans,
même plus de 20 ans, peut-être d'ailleurs, si on resitue peut-être dans un temps plus long. Mais ce qui me frappe, en fait, dans ce discours européen, c'est d'une part le fait de souligner parfois avec emphase la question de la morale et de l'éthique qui comporte elle aussi certaines faiblesses, parce qu'on peut pas non plus aujourd'hui, dans un contexte international marqué par des rivalités de puissance extrêmement fortes, évidemment, avec la montée en puissance chinoise notamment dans la 5G, il y a fondé toute une politique sur l'éthique, sachant qu'en plus sur la reconnaissance faciale l'Union européenne n'a pas tranché visiblement. Or, il y avait un moratoire qui avait été évoqué il y a quelques mois.
Ouais, elle a décidé finalement de ne pas empêcher la technologie de se développer, hein, sur la reconnaissance
faciale. Donc c'est une réponse un peu à la normande qui laisse la porte ouverte aussi à quelques abus aussi, enfin de manière potentielle. Et deuxième point aussi qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas non plus de vraie vision sur les infrastructures. Or, on ne peut pas parler de souveraineté technologique, souveraineté numérique de l'Union européenne, s'il n'y a pas de maîtrise à minima des infrastructures. Donc ça va être les data centers, ça va être d'avoir une vraie politique pour les semi-conducteurs, qui ont une importance fondamentale dans le développement, la sophistication des systèmes d'IA, voire même aussi les métaux rares, dont la Chine a aujourd'hui un quasi-monopole à l'exportation.
Alors, est-ce que, à travers ce que vous venez de dire l'un et l'autre, je ne sais pas si Emmanuel de Pris veut réagir maintenant ou un tout petit peu plus tard sur la question.
Je n'ai pas de réaction particulière sur le livre blanc de l'Union européenne. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est effectivement cette insistance sur la morale et sur les valeurs, dont on a du mal à voir comment il se traduira sur un plan concret pour rivaliser avec les États-Unis et la Chine, sans négliger bien sûr ces aspects-là. Mais en tout cas, on a du mal à voir comment ça pourra nous permettre de rivaliser, effectivement.
Alors, effectivement, je parlais de ce budget financement de 2 milliards d'euros. Dans un communiqué publié à la suite de la publication de ce livre blanc, André Le Scruc-Pietri, qui est directeur exécutif de JEDI, le Joint European Disruptive Initiative, se pose la question de savoir si ce bazooka financier sans priorité clairement définie ne constitue pas finalement qu'une répétition des erreurs du passé, et penser que l'Europe a la capacité d'imposer une série de régulations, dit-il, est une illusion et ça ne va pas contribuer à faire revenir l'Europe dans la course à l'intelligence artificielle. Là aussi un commentaire. Jean-Gabriel Ganassia.
Effectivement, le budget qui paraît impressionnant vu de loin n'est quand même pas énorme. 2 milliards d'euros pour les 10 prochaines années, l'Europe devienne un leader dans ces domaines où, dans le même livre blanc, on nous explique qu'il y a des dizaines de milliards d'euros qui sont débloqués à la fois du côté de la Chine et du côté des États-Unis. Donc effectivement, c'est une arme de très faible portée et qui n'est peut-être pas à la mesure des enjeux. Mais indépendamment de ces questions financières, ce que l'on a dit tout à l'heure, effectivement, est important. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on lit ce rapport, que l'Europe va un peu à reculons. C'est-à-dire qu'elle commence à nous protéger et à nous expliquer tous les dangers de l'intelligence artificielle. Effectivement, la Chine, lorsqu'on y va, on voit qu'il y a un véritable enthousiasme. Enthousiasme peut-être excessif, et d'ailleurs peut-être que les annonces technologiques qui sont faites en Chine ne rencontreront pas le succès qui est promis. Mais, en tout cas, il y a une véritable mobilisation populaire, tandis qu'en Europe, on a des craintes d'abord. La reconnaissance faciale, par exemple, est un très bon exemple. On nous fait peur à partir de la reconnaissance faciale. Effectivement, il y a des applications qu'il faut éventuellement éviter, parce qu'elles pourraient être très problématiques pour nos libertés. Mais il y a quand même des aspects très positifs de la reconnaissance faciale et qu'il faudrait développer. Et puis, on pourrait le faire d'ailleurs dans énormément de secteurs. Et puis, troisième point que vous avez mentionné incidemment dans votre introduction, qui me semble important, c'est que au moment de l'apparition de ce livre blanc, nous avons une mobilisation d'un certain nombre de géants de l'Internet qui vont à Bruxelles et qui font leur lobbying. Et donc, on voit qu'on a affaire à une Commission européenne qui est paralysée par ces jeux de ces grands acteurs qui sont présents à tous les moments. Alors, ça peut être les grands acteurs américains, mais c'est aussi maintenant des Russes qui sont présents dans toutes les réunions, puisque comme la communauté européenne est publique, elle s'ouvre à tout le monde. Et ça peut être aussi des acteurs chinois qui interviennent aujourd'hui. Or, si on veut avoir une véritable politique européenne, il faut d'abord avoir un objectif politique qui est extrêmement bien défini. Et j'ai l'impression que, à la lecture en tout cas de ce que j'ai vu sur, sur les deux rapports, hein, puisqu'il y a deux rapports, hein, eh ben, ça ne se traduit pas clairement. C'est-à-dire qu'on a surtout une annonce, effectivement, de toutes les limitations, de toutes les précautions qu'il faut prendre. On nous parle de tous les dangers, mais on devrait nous parler du reste, du désir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors moi, je crois que l'intelligence artificielle, ça peut faire des progrès énormes à l'humanité en général. Et moi, je serais assez enthousiaste, enfin, sur le développement de l'intelligence artificielle. Et c'est ça, je crois, qu'il faut mettre en avant. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à l'Europe. Et c'est d'autant plus dommage que c'est en Europe que la plupart de ces disciplines sont nées. Et c'est, même si la discipline est née aux États-Unis, mais elle vient en grande partie de gens qui étaient des Européens. Et puis d'autre part, il y a beaucoup de mathématiciens, il y a beaucoup de spécialistes de ces disciplines. Le web, par exemple, vous savez que c'est né au centre de l'Europe. Hein, et c'est un, alors, c'était un Européen, puisque c'est un Anglais, mais c'était un Européen qui a inventé le web.
Donc manque de définition des objectifs européens et une Europe, finalement, Julien Nocetti, peut-être plus réactive qu'active.
Plus réactive, et ça c'est plutôt une constante en matière numérique et technologique. Juste pour revenir très rapidement sur la dimension financière et puis la symétrie justement des budgets annoncés avec ceux qui sont posés sur la table aux États-Unis ou en Chine. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans un effort de rattrapage en matière financière après une début de présidence Trump qui a été marqué par justement des coupures budgétaires importantes dans les budgets fédéraux de la recherche. Et aujourd'hui, on se rend compte que la Maison-Blanche se rend compte que ça a été une erreur, notamment face à l'affirmation de la Chine dans ce domaine. Pour rappel, la Chine avait annoncé en 2017 un budget de 148 milliards de dollars d'ici à 2030 pour justement devenir leader dans l'intelligence artificielle. Et là, aux États-Unis, il y a des annonces qui ont été faites récemment sur le fait qu'il faudrait dépenser au moins 25 milliards de dollars d'ici à 2025 pour ne pas perdre ce leadership face à la Chine. Donc, quand on resitue le montant des budgets européens par rapport au montant que je viens d'évoquer, ça fait évidemment très pâle figure. Au-delà de ça, il y a, je pense quand même aujourd'hui à Bruxelles, la conscience que la souveraineté politique de l'Europe commence par la technologie. Or, il y a une vision avant tout réactive, comme vous le disiez, et qui passe par la régulation. Aujourd'hui, l'Union européenne est une puissance normative, certes, on l'a vu avec le RGPD. Ouais. Qui comporte évidemment aussi certaines carences.
RGPD pour la régulation des données personnelles,
tout à fait. Mais cette puissance régulatrice ne suffira pas à attirer des capitaux, à constituer des pools de données suffisamment importants pour être exploitées par la suite par des applications d'IA, et ni surtout à attirer des talents, entre guillemets, des cerveaux compétents qui sont peut-être la matière première, en fait, de l'enjeu de l'IA.
Alors, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur la question de la 5G. Je me tourne vers vous, Emmanuel Dubois de Prisque. On l'a dit, finalement, sur la délicate question de la reconnaissance faciale, Bruxelles a finalement décidé de ne pas empêcher la technologie de se développer. C'est un peu la politique de l'autruche. On laisse faire, finalement. Alors, c'est vrai aussi que cette technologie existe déjà dans les aéroports. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la Chine. Le coronavirus, on a vu le recours aux technologies de reconnaissance faciale et d'intelligence artificielle avoir sans doute de bon côté dans la gestion de la crise, et la population soutient cette pratique, c'est ce que disait à l'instant Jean-Gabriel Ganassia, laquelle a aussi donné lieu à des dérapages hors de tout cadre juridique, avec une censure renforcée, les réseaux sociaux plus contrôlés que jamais. On peut s'interroger sur les véritables objectifs de la surveillance. Est-ce qu'elle vise seulement à protéger la santé de la population, ou est-ce qu'elle permet aussi de limiter encore la liberté des citoyens? Et finalement, est-ce que les limitations disparaîtront avec l'épidémie, ou est-ce qu'elles seront intégrées au dispositif ordinaire?
Les limitations, comme vous les appelez, existaient déjà avant l'épidémie. Évidemment, on est dans une période un peu particulière, mais d'une certaine façon, la période de quarantaine que subit une partie de la population chinoise aujourd'hui, elle est d'une façon aiguë ce que la population chinoise subit en permanence. Le grand mur numérique que la Chine subit aujourd'hui, c'est une forme de quarantaine numérique que la maladie, d'une certaine façon, rend plus visible et plus aiguë, mais il n'y a pas de différence de nature, il y a une différence de degré, on pourrait dire d'une certaine façon. Sinon, je pense que, en fait, ce qu'on voit pas chez nous, c'est que pour la Chine, il y a une forme de continuité entre la façon dont on peut gérer les questions de santé, par exemple, les questions de justice et le contrôle social lui-même. Mmh. C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie de la gouvernance chinoise. Mmh. Et ce que nous, on voit comme des choses très, très séparées, c'est-à-dire la possibilité de soigner des gens qui apparaît de façon très, très positive, et de l'autre, la possibilité de les punir grâce à l'intelligence artificielle, pour la Chine, tout ça, c'est la même chose. Vous savez, en chinois, gouverner, c'est guérir. Donc, Xi Jinping, aujourd'hui, quand il est sur le front pour mener la guerre La guerre populaire contre le virus ne fait rien d'autre que gouverner quand il gouverne au quotidien. Simplement, c'est une période de crise aiguë.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission avec vous, Emmanuel Dubois-Deprise, également Jean-Gabriel Ganassia et Julien Nocetti. On se retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'intelligence artificielle et les relations internationales. Nous retrouvons nos invités, Jean-Gabriel Ganassia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université et président du comité d'éthique du CNRS, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, Intelligence artificielle vers une domination programmée, point d'interrogation aux éditions Le Cavalier Bleu. Emmanuel Dubois-Deprise, co-chercheur associé à l'Institut Thomas More et auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui d'une étude intitulée Le système de crédit social, comment la Chine évalue, récompense et punit sa population. Et Julien Nocetti, chercheur associé à l'IFRI, chercheur et professeur de relations internationales à Saint-Cyr Couette-Quidan et auteur de « Intelligence artificielle et politique internationale, les impacts d'une rupture technologique aux études de l'IFRI ». Emmanuel Dubois-Deprise, qu'on a terminé la première partie de l'émission avec la Chine, qu'est-ce que finalement révèle du lien entre le pouvoir chinois et la technologie, la crise du coronavirus ?
Il y a une chose assez inquiétante qu'on perçoit aujourd'hui et qu'on peut souligner, c'est la capacité, au fond, grâce aux outils numériques de l'État chinois, à punir et à réprimer toute forme de dissidence par des moyens très simples. On a vu par exemple que des gens qui relayaient ce que le gouvernement considérait être comme des fausses informations voyaient leur compte WeChat, donc qui est utilisé en Chine pour toute une série d'activités sociales essentielles, se voyaient supprimer leur compte WeChat. Ce qui signifie, dans les circonstances actuelles où les gens ne peuvent plus quasiment se déplacer, sortir de chez eux, une forme de mort sociale, non seulement de mort sociale, mais presque de risque de mort physique, dans le sens où c'est très difficile pour eux de se faire livrer dans les circonstances actuelles les éléments de base dont ils ont besoin. Donc on voit à quel point ce qui est un outil utile, bien sûr, merveilleux dans un certain sens, que sont les instruments numériques, peuvent se retourner à partir du moment où on en est privé en une arme terrible aux mains du gouvernement. Et on sait que le gouvernement chinois, bien sûr, malgré certaines tentatives pour essayer de réguler l'usage des outils numériques, reste aujourd'hui souverain dans ses usages, sans véritable contre-pouvoir. Et donc là, on est dans une situation qui est très inquiétante pour tous ceux qui ont eu le malheur de s'exprimer de façon un petit peu libre dans les circonstances actuelles.
Alors, on reste avec la Chine pour parler de la 5G. On a vu Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, qualifier Huawei de cheval de Troie des services de renseignement chinois. Plus loin, peut-être, le gouvernement américain est allé récemment jusqu'à menacer de cesser de partager des renseignements avec les pays optant pour un équipementier 5G non digne de confiance. Évidemment, c'est la Chine qui est visée là, sans la nommer. Un commentaire, Jean-Gabriel Ganassia.
D'abord, la 5G sera essentielle pour les évolutions technologiques, puisque en accroissant le débit de diffusion d'informations, ça va permettre de relayer tous ces flots énormes de données qui seront enregistrés à partir des capteurs et de l'Internet des objets. C'est pour ça que l'enjeu est important. Effectivement, la Chine a pris une avance non négligeable dessus. Bien sûr que les maîtres de la 5G pourront, s'ils le souhaitent, récupérer à partir de ça tout un tas d'éléments d'information. Et donc, effectivement, qu'il y ait des enjeux géostratégiques et politiques derrière la maîtrise de la 5G, c'est extrêmement important. Les États-Unis, bien sûr, veulent se positionner. Et l'Europe, faute d'investissement majeur, risque d'être, encore une fois, dans une position extrêmement délicate sur ce marché-là.
Et une Europe extraordinairement divisée, là aussi, évidemment, Julien Nocetti.
Et c'est là où les propos de Mike Pompeo et aussi de Nancy Pelosi à la conférence de la sécurité de Munich sont intéressants parce qu'en fait, ils appuient vraiment là où ça fait mal, en jouant sur les divisions des différents pays européens. Jusqu'à présent, les différentes menaces qui ont eu cours de la part des Américains vis-à-vis des pays européens, à certains moments, ont porté leurs fruits, avec parfois des revirements de position, notamment en Europe centrale et orientale, et parfois des pays comme la France ou l'Allemagne qui n'ont pas vraiment changé de fusil d'épaule, avec une sorte de mise à distance de cette question chinoise et de législation en cours d'ébauche, qui est censé ne pas irriter Pékin outre mesure. Donc c'est un jeu assez subtil. Malgré tout, il y a un lobbying américain qui reste extrêmement fort aujourd'hui dans la principale capitale européenne. Et c'est vrai que l'objectif est bien de pousser les Européens à exclure Huawei de leur marché public pour construire tous ces réseaux 5G. Alors après, au-delà des menaces d'arrêter le partage de renseignements, il y a aussi d'autres actions très concrètes pour le coup qui ont été prises par les Américains et qui vont bien au-delà de la seule rhétorique. Il y a une annonce qui est passée inaperçue en décembre dernier. Ça a été des sanctions américaines contre Ericsson, le deuxième géant européen européen de la 5G avec Nokia. Donc Ericsson est sous le coup d'une menace $1 milliard pour fait de corruption avec les régimes nord-coréens et iraniens. Mmh. Donc ça, c'est aussi un moyen de peser hein, sur cette question. Et il y a quelques jours, il y a eu l'idée lancée par le procureur général américain, William Barr, que Cisco monte au capital en contrôlant de façon majoritaire le capital de Nokia et d'Ericsson. Mmh. Là aussi, une menace aussi assez voilée de peser sur la destinée européenne en matière de 5G et d'être vraiment l'acteur qui compte.
Emmanuel Dubois-Dubrisse.
Oui, en fait, c'est quand même assez paradoxal, puisqu'on voit que les Américains sont très, très critiques de la présence de Huawei en Europe, alors même que les acteurs qui sont concurrents de Huawei aujourd'hui, même avec un certain retard, sont des acteurs européens. L'Union européenne devrait être, non seulement l'Union européenne, mais les États européens devraient être en soutien ferme et net derrière les entreprises européennes qui sont concurrentes de Huawei. Alors, bien évidemment, on voit la stratégie américaine qui est d'essayer de reprendre pied dans la 5G, parce qu'aujourd'hui, c'est bien l'Europe qui est le seul concurrent crédible sur la question de la 5G face aux Chinois. Donc, la pression américaine ne devrait pas nous inquiéter tant que ça, sauf quand elle prend des formes hostiles à l'égard des entreprises européennes. Et en plus, ce que disent les Américains sur Huawei est fondé. L'idée qu'il y aurait une sorte de séparation entre Huawei et le Parti communiste chinois ou entre Huawei et l'Armée populaire de libération, c'est une fiction. Aujourd'hui, la fusion du civil et du militaire en Chine est un objectif majeur du gouvernement chinois et du Conseil d'État. Bien sûr, ce sont des choses très très compliquées à mettre en place. Il y a un groupe dirigeant chinois qui est consacré à cette question, qui est dirigé par Xi Jinping lui-même. Donc c'est une stratégie très très nette, cohérente et ancienne de la Chine, donc on peut remonter très loin, avant même l'époque maoïste. Donc c'est quelque chose de très très cohérent. Huawei est bien évidemment au service de l'appareil d'État chinois, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc les Européens ne devraient pas se dire est-ce qu'on devrait ou pas permettre à Huawei de contrôler des choses qui sont quand même incroyablement sensibles pour non seulement l'industrie, mais aussi les personnes en Europe. Et on devrait être derrière, clairement, nettement, nos entreprises européennes, et en contrôlant aussi le capital.
Donc une certaine naïveté des Européens. Vous avez fait ma transition, Emmanuel Dubois-Dubrisse, sur le militaire, les applications militaires de l'intelligence artificielle. Alors, on voit la Chine et les États-Unis développer des milliards de dollars dans le système de développement de systèmes d'armes autonomes, les drones, les missiles, les robots tueurs qui peut-être remplaceront bientôt les soldats. Les armes autonomes ont été décrites comme la troisième révolution dans la guerre après la poudre à canon et les armes nucléaires, Jean-Gabriel Ganassia.
Je crois qu'il faut quand même préciser exactement ce qu'on entend par système d'armes et essayer de préciser quel est le rôle que l'intelligence artificielle peut jouer aujourd'hui dans les systèmes d'armes. J'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui essaye de simuler toutes les fonctions cognitives, comme la perception, comme la prise de décision, comme l'exploitation des données dans le passé, comme les interactions avec les machines. L'intelligence artificielle, de ce fait, est essentiel pour tous les systèmes d'armes, qu'il s'agisse d'ailleurs de systèmes d'armes létaux, c'est-à-dire qui conduisent à la mort d'hommes, ou de systèmes de défense, de systèmes non létaux. Par exemple, vous voyez, les petits robots démineurs utilisent de l'intelligence artificielle. On peut aussi avoir des systèmes de brouillage d'ondes radio qui utilisent de l'intelligence artificielle. Donc il n'y a pas équivalente entre systèmes qui utilisent de l'intelligence artificielle et systèmes létaux. Et puis, deuxième confusion, c'est la notion d'arme autonome. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une arme autonome ? Et là, le terme autonome est extrêmement ambivalent. C'est-à-dire qu'on peut dire c'est une arme automatique, auquel cas il n'y a rien de nouveau. Une mine est une arme automatique. Les drones ne sont pas des armes autonomes. Elles ne sont même pas automatiques, puisqu'elles sont commandées à distance. Donc il y a tout un tas de confusions qui se font jour aujourd'hui. Confusions qui sont entretenues par des groupes de pression extrêmement puissants, en particulier en Amérique du Nord, avec des lettres ouvertes qui ont été rédigées. Ce qui est problématique, c'est que l'influence de ces groupe de pression sur le Parlement européen a conduit à voter un certain nombre de résolutions, dont en particulier une résolution en février 2019 qui recommande à la Commission européenne de ne pas financer d'industriels qui fabriqueraient des systèmes d'armes avec de l'intelligence artificielle. Ça revient à désarmer l'Europe aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est de voir que derrière les justifications du Parlement européen, on voit qu'il y a tout un tas de lettres ouvertes signées par des Américains, par des industriels américains comme Elon Musk, par des universités américaines. Et ce qu'on sait, de façon plus précise, c'est qu'il y a un ancien acteur européen qui maintenant est hors d'Europe, qui a une industrie de défense, pour ne pas le nommer, hein, il s'agit des Britanniques, qui ont activement milité pour le vote de résolution de ce type-là, parce que ça laisserait la possibilité d'être les seuls acteurs de la défense. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des stratégies de communication, des stratégies de brouillage d'informations qui peuvent avoir des effets extrêmement néfastes. Et donc il faut le répéter, l'intelligence artificielle est essentielle dans les industries de défense, et la notion d'arme autonome comme étant une troisième révolution dans l'art de la guerre après la coudre à canon et la bombe atomique, c'est un épouvantail qui ne repose sur aucune réalité. La notion d'autonomie telle que on nous la présente, ce serait une arme qui tout d'un coup déciderait d'elle-même, qui choisirait d'elle-même sa cible sans préférer à personne. Or, aujourd'hui, d'abord, la plupart des armes sont des armes télécommandées. Et l'idée donc qu'une arme serait effectivement autonome au sens propre, c'est-à-dire qu'elle aurait une volonté propre, ce qui est tout à fait effrayant, cela, ça ne repose sur rien, si ce n'est, je crois, dans l'idée de désarmer l'Europe. Et je crois qu'il faut être extrêmement sérieux, il faut être extrêmement clair sur ces points précis, parce que ce sont des enjeux vraiment majeurs pour le futur.
C'est assez effrayant, cette notion de désarmement de l'Europe avec des groupes de pression. Et finalement, on voit une Europe plutôt manipulée, Julien de Sétier.
Manipulée, je dirais peut-être pas jusque-là, mais du moins qui est prise en étau entre des stratégies nationales, des stratégies de puissance qui sont très construites et très affirmées. États-Unis, Chine et Russie ont tous su développer des stratégies cohérentes de moyen, voire de long terme dans ce domaine et de façon tout à fait assumée. Et ça, bien au-delà de la seule dimension financière qu'on a évoquée tout à l'heure. Ce qui me frappe en fait chez ces trois acteurs, États-Unis, Chine, Russie, c'est leur activité sur ce plan des systèmes d'armes autonomes à l'ONU. L'ONU est le théâtre depuis quelques années là aussi d'une bataille rangée entre tous ces acteurs qui cherchent à éviter que les Européens en particulier imposent des textes contraignants sur l'interdiction de tels systèmes d'armes autonomes. Et ça a donné lieu à des batailles homériques, et jusqu'à présent Chine, Russie, États-Unis ont eu le dernier mot. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi à suivre, parce que ça va aussi déterminer cette évolution de la conflictualité, avec des champs de bataille qui évoluent. En Syrie, par exemple, depuis fin 2015, les Russes ont testé différents systèmes d'armes autonomes, là aussi. Donc ça a été relativement passé sous silence, parce que ça n'a pas été la dimension la plus significative du conflit, mais il y a quand même déjà aujourd'hui des phases de test en conditions réelles, sur des théâtres d'opérations, qui sont extrêmement importants. Deuxième point peut-être à rappeler dans ce domaine, c'est que il faut bien avoir à l'esprit que les applications d'IA aujourd'hui sont duales. C'est-à-dire que c'est à la fois pour des usages civils, commerciaux, et aussi militaires. Et ça rappelle évidemment la technologie nucléaire en leur temps, dans les années 50-60, quand il y avait aussi tout un discours anxiogène à leur sujet. Mais aujourd'hui, avec les IA, on est précisément dans ce contexte où on n'arrive pas bien à voir quelles pourront être les finalités. Et c'est aussi pourquoi il y a de telles crainte, en fait, d'usage malveillant. Donc l'Union européenne, peut-être aujourd'hui, pour en revenir à cet enjeu européen, est peut-être davantage marquée par cette carte mentale, si vous voulez, autour des IA.
En tout cas, donc, démarcation difficile entre les utilisations civiles et militaires, Emmanuel Dubois-Dubrisque.
Oui, enfin, sur l'Europe, je pense que l'Europe est peut-être victime de tentatives de manipulation, mais une victime consentante, d'une certaine façon. Parce qu'on voit bien que l'Europe, dans son ADN même, il y a cette idée qu'on pourrait surmonter par la coopération le conflit, et donc les applications militaires, la guerre, ne fait pas partie de l'ADN de l'Union européenne. Et donc, on comprend très bien que le développement de ce type d'armes inquiète une Union européenne qui, dans son essence même, vise à surmonter la conflictualité. Ça se comprend aussi dans ce sens-là.
Et il va sans dire aussi, mais on ne va peut-être pas développer par manque de temps, que finalement, il y a deux types d'acteurs. Il y a les États aussi, et puis des acteurs privés de l'Internet qui, eux, n'ont pas de compte à rendre à quiconque. J'aimerais qu'on termine cette émission sur la notion d'intelligence artificielle versus intelligence humaine. Quels sont les risques de dépossession d'un certain nombre de fake intellectuelle. Pour aller plus loin, peut-être, Jean-Gabriel Ganassia, est-ce que l'humain est prêt pour le tsunami technologique qui advient ?
Alors, bien sûr, c'est une grande question. Il faut d'abord savoir et rappeler que l'intelligence artificielle est une discipline scientifique qui aide à mieux comprendre l'intelligence en utilisant des machines. Et donc, de ce point de vue-là, ça n'est pas un risque de dépossession de l'homme par les machines, c'est l'inverse. C'est de mieux comprendre quelles sont nos facultés intellectuelles. C'est ce qui a donné naissance, entre autres, aux sciences cognitives qui ont permis de faire des progrès considérables dans le domaine de la psychologie, mais dans d'autres secteurs comme ceux de la linguistique, etc.
Mais tout de même, permettez-moi, je vous interromps, l'humain sera moins dans le faire.
Bien sûr, le risque, c'est que à partir du moment où on a simulé un certain nombre de fonctions cognitives, on fasse faire à des machines un certain nombre de tâches que les humains faisaient. Et c'est bien sûr cette crainte que nous avons, mais c'est une crainte qui est ancrée dans le cœur de l'homme depuis des siècles. Hein. C'est ce qui a donné naissance à tous les mythes de dépossession de l'homme par la machine. Hein. On craint effectivement que l'œuvre humaine, la créature de l'homme, se retourne contre l'homme. Mais bien sûr, ensuite, il faut bien se comprendre que ça dépend des hommes qui sont derrière les machines, et il y a toujours des enjeux de pouvoir. Et je crois que c'était Ray Bradbury, hein, à qui on demandait « Est-ce que vous n'avez pas peur que les robots prennent le pouvoir ?» Il disait « Non, c'est pas les robots, j'ai pas vraiment peur des machines, mais j'ai peur des hommes qui sont derrière les machines. » Et c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Hein. On peut craindre qu'il y ait de nouveaux enjeux politiques qui soient derrière la maîtrise de ces machines. Et ces enjeux politiques, ce sont des enjeux sociaux à l'intérieur des différentes sociétés, mais ce sont aussi des enjeux stratégiques et des enjeux géostratégiques qui sont extrêmement importants pour le futur.
Alors, enjeux politiques, c'est peut-être important qu'on y passe un petit instant. Julien Nocetti, c'est vrai que les États, que ce soit en termes de politique étrangère, etc., vont devoir adapter leur stratégie en fonction des données nouvelles. Je pense à plus de travail, on n'aura plus besoin de travailler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait voilà. Est-ce que ça va accroître les inégalités ou au contraire les réduire? Si ça accroît les inégalités, quels sont les risques d'un conflit? Enfin, voilà, Julien Nocetti.
Déjà, d'une part, c'est que les États ont déjà commencé à constituer des corpus doctrinaux, à élaborer des stratégies. La France, en particulier, depuis quelques années, a rendu public un certain nombre de stratégies, non seulement dans l'IA, avec le fameux rapport remis au Premier ministre en mars 2018, avec aussi les applications militaires qui ont aussi fait l'objet de stratégies à part entière, mais qui restent très éparpillées, au fond. Et ça, c'est ce qu'on retrouve également au Royaume-Uni, en Allemagne, où il y a peut-être une vision beaucoup plus industrielle du sujet IA, mais il n'en demeure pas moins que face à des blocs technologiques, hein, précisément sino-américains très constitués, là encore une fois très très cohérents et qui pensent le long terme, les autres États font quand même assez pâle figure.
Et l'adaptation des politiques en matière sociale
Alors, pour le coup, ce sera un enjeu là aussi assez capital, qui incite à penser le long terme, alors qui est évidemment une donnée très délicate à prendre en compte par le politique aujourd'hui, notamment en Europe, avec là aussi des contestations qui vont croissant dans les principaux pays européens, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Donc, ce qui ne favorise pas non plus l'élaboration de transition vers la prise en compte de ce facteur technologique. Et jusqu'à présent, il y a une conscience assez je dirais une prise de conscience assez modeste de l'impact de ces bouleversements technologiques sur les tissus socio-économiques en fait des pays concernés. Et ça, c'est une donnée majeure parce que là, forcément, à terme, sans parler de fin du travail ou d'entrer là, dans des considérations trop pessimistes ou anxiogènes, mais il y aura la question de l'adaptation de la jeunesse et des travailleurs face à ces bouleversements technologiques, donc qui va constituer une donnée non seulement financière mais aussi humaine et de formation qui est colossale, avec l'apparition de nouveaux métiers, de nouvelles formations qui vont là aussi bouleverser tout un pan des économies nationales. Donc ça pose des questions de fond aussi pour les politiques qui sont étroitement liées aux facteurs économiques, et ça c'est encore loin d'être résolu, je pense.
Emmanuel Dubois de Prisc, en guise de conclusion, très rapide.
L'idée qu'en fait l'intelligence artificielle serait un modèle de l'intelligence humaine, je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être se retourner aussi. C'est-à-dire que, en fait, quand on modélise l'intelligence humaine, on la modélise d'une certaine façon, et finalement, la façon dont on l'a modélisée devient un modèle pour nous. C'est-à-dire que l'idée d'avoir comme ça une rationalité, une action complètement débarrassé des émotions, par exemple, ça peut devenir aussi un modèle pour nous. Et s'il y a eu cette espèce de fièvre de l'intelligence artificielle, comme on l'appelle en Chine, à la suite de la victoire d'AlphaGo sur le champion du monde de Go, c'est peut-être qu'on s'est dit, voilà, on a une intelligence débarrassée de tout affect, machinisée d'une certaine façon, qui va être un modèle pour nous. Donc modèle, ça se prend dans les deux sens aussi, je pense. Et c'est quelque chose d'assez frappant, en tout cas, pour ce qui se passe en Chine aujourd'hui.
Alors merci, évidemment, beaucoup d'autres choses à dire concernant l'intelligence artificielle, l'occasion peut-être de vous inviter à nouveau. Merci Jean-Gabriel Ganassia, je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université et président du comité d'éthique du CNRS et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier Intelligence artificielle vers une domination programmée ? aux éditions Le Cavalier Bleu. Emmanuel Dubois de Prisque, chercheur associé à l'Institut Thomas More et auteur, pour ce qui nous intéressait aujourd'hui, d'une étude intitulée Le système de crédit sociale, comment la Chine évalue, récompense et punit sa population. Et Julien Dossetti, chercheur associé à l'IFRI, chercheur et professeur de relations internationales à Saint-Cyr-Couette-Guidon et auteur de Intelligence artificielle et politique internationale, les impacts d'une rupture technologique aux études de l'IFRI. Géopolitique est signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.
Priorité santé.
Caroline Paré.